retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Salut et bienvenue dans votre émission À bout de souffle. Pourquoi À bout de souffle ? Tout simplement parce que déjà nous serons deux derrière les micros. Ensuite, à la fin de l'émission, nous espérons bien que vous serez à court de soupe par tout ce que vous aurez entendu et appris, et surtout parce que cette émission est un partenariat entre deux entités, monparisfm.com et isnews.fr, deux entités promouvant la mixité sociale, les parcours atypiques et la réussite par le travail. Au cours de chacun de nos épisodes, vous aurez l'occasion d'écouter un acteur ou une actrice plus ou moins connue revenir sur son parcours, ses rencontres, ses réussites et ses échecs, des parcours qui, on l'espère, en inspirera plus d'un d'entre vous.
La morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, il est connu pour avoir été le premier à marquer dans cette célèbre lucarne d'Evry. Pied droit soyeux, phrasé légendaire, mimique incontournable, c'est également un homme au grand cœur qui par ses actions contribue à la prise en charge d'orphelins au Mali dans son pays d'origine. Guy l'Ancien est mon invité. Comment ça va, Guy ?
Et toi ?
Bon, ça va. Hein ?
Nickel, comme à la maison.
Ça va, t'as pas trop galéré à trouver ? Je sais qu'il y a un lien entre les pyramides et chevalerets,
ouais.
C'est ce qu'on m'a dit.
Ouais, il y a un lien entre les pyramides et chevalerets. Bah, ce lien, c'est par rapport au groupe... connu ici avec les frères Demo.
C'est ça, la MZ.
La MZ et tout. Voilà, c'est des gens qu'on connaît particulièrement. C'est la famille.
C'est la famille.
C'est la famille.
Pour que les gens te connaissent un peu mieux, j'ai une petite chronique, ça s'appelle fiche d'identité. Toi, t'es la fiche d'identité numéro 141-069-01. Le principe, il est simple. Je vais te poser des questions et il faudra que tu répondes et on remplisse cette fiche d'identité pour qu'on en sache un peu plus sur toi. C'est bon pour toi ?
Nickel.
Nom, prénom ou pseudo ?
Guy.
Date de naissance.
1977.
Lieu de naissance.
Au Mali.
Profession.
Agent de maintenance.
Vie maritale.
Oui.
Nombre d'enfants.
4.
Lieu de résidence.
Évry, Savigny.
Et réseaux sociaux.
Insta, Snapchat.
C'est quoi ton préféré, Insta ou Snap?
Bon, c'est plus Insta.
Plus Insta?
Ouais.
Tu disais, t'es né à Évry, c'est ça?
Non, au Mali.
Au Mali, c'est ça ce que tu me disais, t'as grandi au Mali?
Je suis né au Mali jusqu'à l'âge de 6 ans.
6 ans?
Ouais.
Tu te rappelles de ces 6 premières années de ta vie au Mali?
J'ai des petits souvenirs.
Des petits souvenirs? Ouais, c'était souvenirs. Comment? C'est quoi ces petits souvenirs?
Bah, tu connais, hein, frère. Hein. Des souvenirs d'enfance, on va dire. D'enfance. Où on s'amusait avec les moyens du bord, on va dire. Et surtout, je me rappelle de l'agriculture, parce que j'allais au champ.
Et à 6 ans déjà, tu t'accompagnais en tout cas ?
J'accompagnais, ouais, exactement. J'accompagnais déjà les membres de ma famille. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que à l'âge de 4 ans, je crois, ma mère, elle est venue en France. Donc moi, je suis resté là-bas avec mes plus grands frères et sœurs. Et donc, tu connais les maisons familiales, hein, t'as vu ? Voilà. Maman n'est pas là, y a d'autres mères, hein, c'est pareil, tu vois. Et donc, ouais, on allait régulièrement au champ. Même si je travaille pas beaucoup, mais j'y allais quand même.
Tu suivais les grands ?
Je suivais les grands, exactement.
T'arrives en France, comme tu le disais, à 6 ans.
Ouais.
Comment ça se passe, l'arrivée en France ?
Bah, déjà, avant de parler de l'arrivée en France, on va déjà parler de l'arrivée à Bamako.
Ok,
voilà.
Super intéressant.
Voilà, parce que moi, je suis né dans un village. Donc, un village à 5 km de Kaï. Et déjà, tu sors du village, déjà tu arrives à Kaï, déjà c'est comme si tu quittais Paris, tu es à la New York.
C'est différent à ce point-là.
Ah oui, complètement, complètement, complètement. Et donc quand je suis arrivé à Bamako, déjà c'était un truc de fou déjà en vrai, tu vois. Tu voyais tout en grand, tu voyais des voitures, tu vois, au village il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien en vrai, tu vois. Donc déjà quand j'arrive à Bamako, déjà pour moi c'était déjà quelque chose. Et donc après, à mon arrivée à Paris, la première chose qui m'a choqué déjà, c'est de voir des blancs.
Parce que tu n'en avais pas du tout croisé, on le rappelle, on est dans les années 80, du coup,
ouais,
en Afrique.
Ouais, exactement. Ouais, dans mon village, il n'y avait pas de blancs. Kaï, peut-être qu'il y en avait, mais j'étais juste passage. Et Bamako, c'est pareil, je ne suis pas resté trop longtemps à Bamako, c'était juste une escale, on va dire, pour pouvoir venir en France. Et donc, quand je suis arrivé en France, ouais, c'était ça, c'est de voir des blancs, quoi. J'avais jamais vu de blanc.
Et quand t'arrives, tu rentres directement à l'école ?
Non. Non, je rentre pas directement à l'école. Non, je rentre à l'école après.
Comment ça se passe cette arrivée? T'arrives où d'ailleurs en France? T'arrives sur quelle ville, quel département?
J'arrive à Paris.
À Paris, ok.
Donc 19e arrondissement.
Que ça doit changer de fou.
Ouais, complètement, ouais, complètement. Non, donc j'arrive à Paris et je crois, je sais même pas si je suis arrivé avant la rentrée ou après la rentrée, mais je crois, ouais, j'ai dû attendre peut-être une ou deux semaines avant qu'on fasse l'inscription, on va aller à l'école.
Et à l'époque, tu parlais déjà français ou pas? Est-ce que à Caï, pas du tout?
Non, pas
c'est
du
que
tout.
Ta langue maternelle, c'est?
Non, les malinqués.
Ok, vous êtes malinqué. Du coup, quand t'arrives, tu parles pas du tout français, t'as pas de repas. Mais par contre, il y a tes parents qui sont déjà là. Il
ouais.
y a ta mère.
Ouais, et mon père.
Et ton père. Et t'as des frères et sœurs qui sont déjà arrivés?
Ouais, j'ai quand je suis arrivé, ouais, j'avais trois petites sœurs ici.
Ok. Ouais. Du coup, il y a cette arrivée en France. Il y a l'école, le collège. Comment ça se passe? T'étais un élève comment toi à l'école? T'étais quel genre d'élève?
Bah déjà, attends, déjà, on va déjà parler du début. Donc, quand je suis arrivé donc en primaire, parce que je suis arrivé, je crois, que j'avais 7 ans. Donc on m'a mis en primaire et là c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose pour le comprendre, il faut le vivre. Tu vois, quand on parle de, on va dire de l'arrivée de nos parents en France, qui ne savaient pas parler français, qu'ils arrivent dans un pays nouveau, qui sont perdus, hein, parce que moi c'était complètement ça. C'est-à-dire que j'arrive à l'école, bah, je ne sais pas parler français. C'est-à-dire que même quand on me demandait comment tu t'appelais, bah, je ne savais pas quoi répondre en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu vois,
c'était vraiment le procès.
C'était le néant total. Le néant total, c'est comme si toi on te prenait tout de suite, on te ramène au Portugal, quoi. Et débrouille-toi.
Ouais.
Voilà. Et tu sais, nous, en plus, nos parents, ils n'ont pas étudié non plus. Donc, ça veut dire qu'ils ne maîtrisaient pas trop, on va dire, la langue française aussi, tu vois. Mmh. Et ça a été des moments très, très difficiles.
Mais est-ce que tu es bien accueilli par les autres dans la cour de récréation?
Oui. Bah, tu connais 19e, c'est aussi, il y a beaucoup de populations immigrées.
Ouais, c'est une mixité sociale.
Voilà, il y a beaucoup de populations immigrées. Donc, ça va, non, c'était. Franchement, pépère, quoi. Pépère. C'était plus, on va dire, la langue.
Ouais, c'est vraiment ça le plus compliqué.
Ouais,
tu commences à parler français couramment à partir de quel âge, d'ailleurs?
Bah, après, tu sais, quand t'es petit, t'apprends vite, en fait. T'apprends vite, hein. Donc, je pense au bout d'un an, déjà, ça y est, je commençais à parler avec les gens.
Ok, tu maîtrises le français et tout. Et du coup, ça se passe comment dans cette école, primaire, collège comment toi, tu vis tout ça?
Bah, en fait, à Paris, je suis pas resté très longtemps non plus. Parce que j'ai fait de la CP à la CE2.
Ok.
À la CE2, après pour des raisons, on va dire, familières, parce que les appartements étaient très très petits à Paris. Donc voilà, mon père, il a voulu trouver un peu plus grand. Et donc on a atterri à Évry en 86.
Ok. Donc, ouais. Et comment ça se passe? Parce que je suppose encore c'est différent, Paris-Évry. Du coup, on le rappelle, il y a le village, Caï, Bamako, Paris et maintenant Évry. Comment tu te réadaptes à cette nouvelle vie? À ce nouvel environnement?
Bon, ça va, l'adaptation a été très facile parce que je suis pas resté trop longtemps à Paris non plus. Tu as vu, j'ai fait que 2 ans. Et donc, quand je suis arrivé à Évry, je n'étais pas trop dépaysé non plus. Parce qu'en vrai, il faut savoir qu'Évry aussi, c'est une ville qui a été. Il y a eu de l'immigration à Évry. Voilà, parce que c'était une ville nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tous les gens qui arrivaient à Évry, bah, c'était des gens d'ailleurs. Hein. C'était des gens d'ailleurs. Donc, je me suis même retrouvé avec des gens qui étaient à Paris avec moi, en fait.
Ok.
Ouais.
Et maintenant tu parles le français, donc je suppose que c'est plus facile aussi de créer des liens, des connexions avec les autres.
Oui, c'était plus facile. Mais là, j'arrive là-bas à Évry, donc en CE2, et là je me confronte à une autre situation. C'est les effets de bande en fait dans les écoles.
Et on le rappelle, t'as quel âge à cette époque-là?
86, ouais, j'ai 9 ans.
9 ans.
Ouais,
et il y a déjà ce phénomène.
Bon, c'est pas des bandes, c'est des bandes de potes.
Oui, c'est pas des rixes. Hein,
non.
Mais il y a déjà ces trucs où tout le monde est parqué dans son coin.
C'est comme aujourd'hui, quand je veux dire, tu vas au collège, tu regardes dans la cour, il y en a 10 là-bas, 20 là-bas, et c'est des gens qui se côtoient régulièrement, quoi, je veux dire, tu vois. Donc moi, j'ai été confronté à ça dès le premier jour, on va dire, hein, parce que j'étais nouveau, donc on me connaissait pas. Et j'ai dû, on va dire, faire ma place.
Et comment tu t'imposes justement? Comment tu te fais ta place parmi les autres?
Bah, on va dire la place, elle s'est faite automatiquement, sans calcul en vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je suis arrivé donc à Évry. Bon, il y a eu un peu de rejet de certains, c'est normal, parce que c'est des mecs qui se connaissent depuis la maternelle, hein, t'as vu, ils ont grandi ensemble jusqu'en primaire. Et après, quand je dis, il y a l'autre catégorie de gens, bah, c'était des gens comme moi, qui viennent d'arriver. Donc on était à peu près, on va dire...
Qu'on crée aussi cette bande-là.
Bah, c'est ça.
Il y a la bande, pour prendre un exemple un peu vulgaire, des nouveaux arrivants, c'est ça ?
Exactement, ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire presque tous les jours, même pas chaque semaine, tu avais toujours un nouveau qui arrivait.
Ok, c'est... Ouais,
qui vient de Paris, d'Ivry-sur-Seine, de tout ce que tu veux, quoi. Chaque fois, il y avait un nouveau qui arrivait. Et donc ça va, l'adaptation, ça s'est fait.
Et est-ce que ça te... Comment dire ça ? Ça participe pas à ton évolution, le fait d'avoir côtoyé des personnes issues de un peu partout ? Est-ce que ça participe pas aussi à cette proximité que tu créeras par le futur avec les gens ?
Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Parce que comme je te dis, t'as vu, nous, on vient de... Bah, je suis né au village, j'ai grandi là-bas. Donc on a l'habitude de se retrouver qu'en communauté, entre guillemets. Quoique encore, moi, mon village, ça va. Parce qu'il y avait beaucoup... c'était un village multi-ethnique, entre guillemets. Tu vois ce que je dis ou pas ? On avait des Malinkés, des Sonikés, des Peuls, donc ça va, on avait déjà l'habitude de cohabiter ensemble. Donc, habiter ensemble. Donc, non, quand je suis arrivé en primaire, ouais, donc à Évry, oui, il y avait aussi cette mixité-là, parce que là, il y a d'autres. En fait, tu as d'autres populations qui rentrent en jeu. Tu vois ce que je veux dire ?
Okay.
Tu as d'autres populations, bah, tu as les Maghrébins, à l'époque, tu avais des Suisses, des Suédois, des pays que j'avais jamais entendu de ma vie, quoi, je veux dire, tu vois, des Yougoslaves, et pareil aussi, c'est des gens qui arrivaient, bah, pareil. Hein.
Et c'est aussi ça, la force de la France, le fait de pouvoir, en tout cas, côtoyer des gens issus de un peu partout.
Exactement.
C'est vrai qu'on n'a pas forcément ça partout dans tous les pays où
Exactement.
On est parqué entre
Exactement.
Gens du même pays.
Exactement.
Et toi, t'es quel genre d'élève, du coup, à l'école ? T'es turbulent, pas turbulent ? Bonne note, pas bonne note ? C'était compliqué, pas compliqué.
En fait, bah mon truc, c'est, en fait, c'était un truc à deux visages, entre guillemets. Parce que t'as la période où, comme je te dis, bah, je parle pas trop bien français. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, effectivement, bah, les notes, bah.
Ouais, forcément.
Ouais, elles sont basses, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Donc, t'as la deuxième partie où là, ça y est.
Tu parles français ?
Là, je parle français. Et, bon, les notes, c'était pas terrible, on va pas se mentir. C'était pas terrible.
C'était pas...
Non, c'était pas terrible.
Mais c'est pas terrible parce que t'arrives pas ou c'est pas terrible parce que tu veux pas que ce soit terrible ?
Bah, il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux, en fait. Bon, après, à cet âge-là, t'as vu, on connaissait pas, on va dire...
L'importance.
L'importance, voilà. L'importance, bah, d'étudier, enfin. D'étudier, tu sais. Moi, aujourd'hui, avec mes enfants, t'as vu, je peux leur expliquer l'importance d'étudier parce que moi-même, j'ai étudié, tu vois. Mais nous, comme je te dis, on est, voilà, on est issus de, voilà, des parents qui sont venus... Bah, on va pas se mentir, ici en France, pour travailler, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc c'est des gens qui n'ont pas fait d'études, donc c'est difficile de parler aux enfants de quelque chose que
ouais, qu'eux-mêmes ils ont pas
qu'eux-mêmes ils ont pas connu, quoi, je veux dire, tu vois. Donc moi, c'était plus ça, ouais, il y avait l'envie, pas l'envie, ou ça dépend.
Et du coup, tu fais le collège, tu vas jusqu'au lycée, l'école, tu vas loin quand même dans le processus de l'école.
Ah non, mais attention, par contre... Attention, hein, quand je voulais travailler, je travaillais. Hein.
Ça veut dire c'est vraiment quand tu avais envie.
Quand je voulais travailler, je travaillais, c'est la vérité. Pour te dire, de mon CP jusqu'au collège, j'ai pas redoublé une fois. Hein.
Ok.
Ah non, j'ai pas redoublé. Non.
Et au niveau du collège, on sait qu'en troisième, il y a ce choix d'orientation, bac pro, général... Tu fais quoi, toi, après le collège ?
Bah...
Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard ?
Non.
Tu savais pas ?
Non, pas du tout. Bah, en fait, contrairement aux nouvelles générations aujourd'hui, à l'époque, déjà au collège, à partir de la 5e, déjà, on pouvait déjà...
Ah ouais, se parquer...
Oui, à partir de la 5e, déjà, on pouvait déjà partir en professionnel. Ce qu'on appelle les CAP et tout, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, à partir de la 5e, on pouvait déjà... partir vers là, non, moi tranquille, hein, t'as vu, j'ai fait ma 6e, bon, après je suis arrivé donc en 3e, ok, et donc mon année de 3e, donc à la fin, je voulais aller en général, ok, mais malheureusement, j'avais pas assez de bonnes notes, hein, t'as vu, donc j'ai décidé de redoubler, tranquillement.
Ok, c'est un choix personnel.
C'est un choix personnel, parce que je voulais pas aller...
En pro.
Voilà, dans la filière professionnelle, tu vois ce que je veux dire. Donc, je décide de redoubler. Donc, je refais ma deuxième année de troisième. Et maintenant, au bout de ma deuxième année de troisième, on me propose le général. Ce qui est normal.
C'est le Graal.
Voilà, ok. Sauf que moi, je refuse le général.
Attends. Alors, tu fais une année de troisième. On te dit que t'as pas assez de notes pour aller en général, mais toi tu veux aller en général. Ouais. Du coup, tu demandes à redoubler pour aller en général.
Ouais.
Puis quand t'as redoublé, on te propose un général, mais tu dis non.
J'ai dit non.
Pourquoi ?
Je veux aller en professionnel.
Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux années ?
Je sais même pas. Je sais même pas ce qui s'est passé, en fait. Je sais même pas.
Et tu vas en professionnel, mais en professionnel, en liste que t'as choisi ou dans une filière que t'as choisi ? On le rappelle, hein. Bac pro, il y a commerce.
Oui, c'est un truc que j'ai choisi, bien sûr. bien sûr.
Mais qui te plaisait ou tu te voyais
Non, c'est même pas ça. En fait, bon, pour être honnête, en fait, j'avais déjà un grand cousin à moi. On avait peut-être un an d'écart. Mmh. Et donc, en cinquième, il est parti en professionnel. Donc, il est parti, il a fait un CAP plomberie. Mmh. Et tu sais, c'était en deux ans, je crois, le CAP, tu vois.
Ouais, le CAP, c'est voilà. En deux ans.
C'était en deux ans. Et il a eu son CAP et il travaillait déjà.
Ok.
Tu vois, il travaillait déjà.
Du coup, il y a cet attrait, moi aussi, oui, je veux travailler, gagner la de l'argent.
La dépendance, c'est ce que je vais dire. Et lui me dit, ah, c'est trop bien et tout, regarde, j'ai fait deux ans de CAP. En plus, à l'époque, tu as vu, dans les trucs, dans les filières, on va dire, professionnelles, c'est tout ce qui est, surtout manutention manuelle, on va dire, plomberie, maçonnerie et tout, c'est quand tu avais le CAP, ça y est, c'est bon. Tu n'as pas besoin du bac, en fait, tu vois. Direct, tu trouvais du boulot et...
Tu vois, t'étais sur le terrain.
Ça y est, tu te retrouves à 17 ans, 18 ans, cousin, à toucher 10 000 balles par mois.
Ouais, c'est énorme.
Voilà, tu vois. Et en fait, donc, pendant cette deuxième année de troisième, je parlais beaucoup avec ce cousin-là qui me disait, ah, regarde et tout. Et c'est vrai, effectivement, tu sais, quand j'allais chez lui, je voyais, il était bien, quoi, tu vois. Et donc, c'est après, j'ai dit, pourquoi je m'embêtais à faire une filière générale. Autant aller directement professionnel, quoi, j'ai dit, t'as vu.
Et du coup, tu fais un bac pour quoi?
Non, je fais un BEP.
Un BEP?
Ouais, je fais un BEP, donc en installation sanitaire.
Ok.
À Baudelaire, à Évry. Bon. On va pas parler de ces années-là.
Pourquoi? Bah si, justement, c'est intéressant de.
Bah en fait, donc je fais donc un BEP donc en installation sanitaire donc au lycée du bâtiment à Baudelaire. Mais en fait, c'était en fait tu sors d'un collège pour te retrouver au quartier.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, voilà, je m'explique. Bah, il faut savoir qu'à l'époque, donc, le cursus, on va dire, professionnel, donc c'était les mecs qui n'avaient pas les bonnes notes, on ne va pas se mentir, hein, tu vois ce que je dis ou pas. Et en général, les mecs qui n'avaient pas de bonnes notes, bah.
On les mettait tous ensemble.
Bah, voilà, tu vois, c'est souvent, on va dire, ceux qui traînaient beaucoup dans la rue, qui ne révisaient pas, entre guillemets, les cancres, tu vois ce que je dis ou pas. Donc voilà, je me suis retrouvé à Baudelaire avec tous les. Toute la SMA là du 91, quoi.
Et du coup, là, ça impacte même ta vie personnelle, en dehors de l'école? Ou est-ce qu'il y a ce truc de... C'est des gens qui vont t'emmener dans des choses où tu veux pas aller? Ou comment ça se passe, cette relation avec ces gens-là? Finalement, cette nouvelle population que tu rencontres, on le rappelle, hein, toi, t'es toujours de rencontre en rencontre. Village, Caï, Bamako, Paris, Évry. Maintenant, on est en BEP, on rencontre une nouvelle population. Comment se passe cette rencontre avec eux?
Bon, en fait, cette rencontre, ça devient, on va dire... ça devient un carnet d'adresse, en fait. Tu vois ce que je dis ou pas? Parce que moi, j'étais à Évry, donc au quartier des Pyramides. Je me retrouve au lycée, là, comme je te dis, du monde de partout. Grigny, Corbeil, Vigneux, Atis-Mons et tout ce qui va avec, hein, t'as vu? Et là, en fait, c'est... Tu te retrouves dans un... Comment t'expliquer? Dans un autre engrenage, entre guillemets.
Positif ou négatif?
Bah, que ce soit positif ou négatif, en vrai. Que ce soit positif ou négatif, tu sais... quand tu es chez toi, vous faites tous la même chose, on va dire, vous n'avez pas de vision de l'extérieur. Mais quand tu es dans un endroit où là, il y a du monde de l'extérieur, chacun ramène sa touche personnelle, on va dire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bah après, tu connais la suite, hein, t'as vu. Ouais, tu prends un peu de positif là, un peu de négatif là. Et...
On recevait Riyad Salem, l'émission juste avant toi, dans la dernière de Abou de Souffle, qui nous disait nous, c'est les autres, en fait.
C'est exactement ça.
Nous, c'est les autres. On est une partie des autres. Exactement. Chacun ramène son truc et ça forme, ça fait nous.
Exactement.
Donc toi, tu te retrouves à vivre cette situation.
Bah, je me retrouve à vivre cette situation-là, donc à me retrouver avec des gens bah, qui étaient comme moi, en fait. Hein, tu vois. C'est pas comme au collège où voilà, t'as des mecs qui travaillent bien, t'as des mecs ci, t'as des mecs ça, mais là, tu te retrouves là-bas, bah, des mecs comme toi. C'est-à-dire des mecs qui sont passés avec des 8 de moyenne générale, quoi, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, quoi.
Et tu finis par l'avoir, le BEP, quand même?
Le BEP, j'ai eu mon BEP CAP en même temps.
Ok. Ouais. Après, on rentre dans la vie professionnelle directement ou tu fais autre
pas
chose?
Pas encore. Je fais un bac pro en climatisation.
Ok.
En climatisation, donc qui était aussi sur 2 ans. Donc, malheureusement, la dernière année, pour des raisons, on va dire, personnelles, voilà, j'ai pas eu mon bac.
Des raisons personnelles qu'on peut évoquer ou pas du tout évoquer?
Non.
On peut pas?
Non.
C'est des raisons, sans rentrer dans les détails, hein, mais c'est des... est-ce que c'est finalement la rue, l'environnement qui nous rattrape?
Ouais, c'est ça.
C'est l'environnement qui nous rattrape et on arrête.
C'est ça.
Ok, il y a tout ça, t'arrives pas à avoir le bac pro. C'est quoi le premier métier que tu fais? Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, t'as une vision sur ce que tu veux faire après?
J'ai travaillé très très tard dans ma vie, moi.
Très très tard?
Oui, j'ai travaillé très très tard. Bon, on va dire... Bon, à partir de 18 ans, en fait, je faisais des livraisons de pizza.
Ok. Parce que, premier métier, c'est livreur de pizza.
Ouais, voilà, mais après, je ne considère pas ça comme un métier, moi, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est livreur de pizza. Mais sinon, après, donc, après mon bac pro, moi, je suis resté quand même une année sans rien faire.
Ok.
Donc, sans rien faire. Et après, je décide de faire une formation pour être technicien de maintenance.
Okay.
Donc, c'est à peu près l'équivalent d'un bac plus 2. Malheureusement, je me fais recaler par la psy.
La psy ? C'est quoi les raisons qu'elle évoque ? Si on peut...
Je me rappelle même plus, quoi, en fait. En fait, pour t'expliquer, c'est quoi une psy ? C'est quelqu'un qui décide de ta vie, en fait. Non, mais sérieusement. Sérieusement, c'est quelqu'un, elle te voit, elle te parle avec toi, et elle dit non, tu peux pas.
Elle a décidé que
oui, c'était exactement ça, quoi. C'était exactement ça.
C'est déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier échec ? Ça constitue un des premiers échecs
Complètement.
Comment tu vis cet échec ? Parce que nous, quand on a créé cette émission, il y avait aussi ça. Le fait que quand on vit des échecs, comment on se relève de ces échecs et être ce qu'on est devenu aujourd'hui ? On en reviendra un peu plus tard sur ce que tu es aujourd'hui. Comment tu vis ce premier échec ?
Bah, très mal. Bah, très très mal. Parce que j'avais envie d'avancer, on va dire, dans ma vie. Est-ce que j'y trouve ou pas ? Parce qu'à cette époque-là, c'est chaque fois, on entendait, ouais, les jeunes veulent rien faire, ils traînent dans les cités, la bagarre, la drogue, et patati patata. Alors que moi, je voulais vraiment, voilà, je voulais m'occuper de ma vie, on va dire. Est-ce que j'y trouve ou pas ? Malgré le fait que j'ai raté mon bac, j'ai trouvé une autre alternative, on va dire, pour pouvoir continuer mes études. Je réussis tout, sauf qu'à la fin, une seule personne décide, quoi, en fait, tu vois.
Et tu fais quoi après cette décision, du coup ?
Bah, j'ai eu du mal à m'en remettre, sincèrement, t'as vu. Après, j'avais plus envie, en fait, tu vois ce que je dis ou pas. J'avais plus envie, voilà. Donc je galère encore, hein. Je vais pas te mentir, tu vois ce que je dis ou pas. Je galère encore. Et après, j'ai voulu faire une formation pour pouvoir être éducateur spécialisé.
Ok.
Mais ça, malheureusement, j'avais pas les compétences, comment dire, de l'école, on va dire.
Voilà. Et te manquait les notions scolaires.
Ouais, exactement, ouais.
Et quel conseil, toi, justement, tu pourrais donner à ces jeunes qui vivent un échec comme ça ? Qu'est-ce que toi, t'as pas fait que t'aurais pu faire, qui aurait donné peut-être un autre aspect à la suite des choses ?
Bah, sincèrement, à mon niveau, à moi, j'ai rien à me reprocher, en fait. Non, j'ai rien à me reprocher, parce que je me suis levé pour aller faire, donc, comme je t'ai dit, technicien de maintenance. Et écoute bien, hein, je quittais Évry, j'allais jusqu'à Clamart.
Ah, c'est la motivation.
Donc, t'as vu, c'était pas Évry, quoi. J'allais jusqu'à Clamart, avec ma voiture, avec mon essence. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, et le deuxième truc, donc, d'éducateur spécialisé, bon, ça, c'est autre chose, parce que franchement, j'avais pas les compétences, on va dire, scolaires. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, à mon niveau, sincèrement, j'ai rien à me reprocher, en fait. J'ai rien à me reprocher. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ma vie à moi, j'ai fait tout ce que j'avais. Tu sais, dans la vie, en fait, tu peux essayer de faire tout. Bah, quand ça marche pas, ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Et ça, en fait, tu peux pas t'en vouloir. T'en veux un moment au système. La psy, pourquoi ? Pourquoi elle m'a recalé ? Est-ce qu'elle m'aimait pas ? Est-ce que c'est ma couleur de peau ? Est-ce que c'est le fait que j'habite à Évry aussi ? Parce qu'à l'époque, Évry, c'était très mal vu, on va pas te mentir. C'était l'époque où, quand ils voyaient sur un CV Évry, sincèrement, le CV, je le mets dans la poubelle. À la poubelle. Donc voilà. Mais après, les gamins, pour revenir à tout ça, t'as vu, c'est. La vie est faite de combat, en fait.
Il faut se battre à chaque
fois. Il faut se battre. Et tu te battras toute ta vie. Toute ta vie. Moi, c'est le seul conseil que je vais leur donner. En fait, il faut qu'ils se servent de leur échec, on va dire, pour pouvoir monter encore plus haut.
Et monter encore plus haut, on le dit, hein. Alors, décembre 2019, tu marches tranquillement dans ton quartier à Évry et tu débarques dans la rue Jules Vallès. Tu vois du monde attroupé et tu penses à une embrouille, comme tu l'as confié à nos confrères de SoFoot. Sauf que non, les habitants du quartier veulent placer le ballon dans la fameuse petite fenêtre au numéro 24. Sûr de toi, tu récupères le ballon et tentes la frappe. Bim, pleine lucarne du premier coup. Ta réaction, elle est magique. Celle de ton frère et de vos potes autour, encore plus. On va écouter.
Yes,
Ce rire qu'on entend, c'est celui de ton frère, Malasson. La vidéo, elle tourne sur les réseaux et fera le buzz, surtout grâce à Snap au début. Depuis, le phénomène a pris de l'ampleur sur Twitter, plus d'un million de vues et les gens ne parlent que de ça à Évry, au point que cette petite fenêtre a été renommée la lucarne enchantée par Google. Mmh. Les médias en font des reportages carrément, comme le Parisien, où on voit tous les jeunes tenter leur chance. De Néné, ex-joueur du PSG à Mehdi Benatia, en passant même par des célèbres noms comme Ronaldinho. Des personnalités viennent tour à tour tenter leur chance sur place. La petite lucarne finit même par faire une apparition dans le clip de présentation des 26 bleus sélectionnés pour le dernier championnat d'Europe de football à l'été 2021. Est-ce qu'on peut revenir sur ça déjà? Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Je sais qu'il y a une histoire de... Je crois que tu vas chez ta mère manger du riz.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire jusqu'à ce fameux tir?
Bah ouais, comme je l'ai déjà dit en fait. Bon, donc, faut savoir une chose, c'est que nous on habite en fait en face de cette fenêtre. C'est-à-dire que nous, on est au bâtiment 9, et le mot 24, bah, c'est le bâtiment qui est en face.
Okay.
Et donc, j'étais monté pour aller manger et tout. La cuisine donne sur de l'extérieur, on va dire, en face de la lucarne. Et il faisait chaud, la fenêtre était ouverte et tout. Et donc, je mangeais et j'ai entendu du bruit. Et comme je t'ai dit, on ne va pas se mentir, c'est dans nos quartiers, c'est très fréquent, les embrouilles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et donc, je me mets par la fenêtre et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a quoi? Une bagarre? Il y a quelque chose? Non, c'est de mettre la balle dans la fenêtre et tout. Et moi, ironiquement, je leur dis, mais les gars, tranquille, laissez-moi manger. C'est ce que je dis. Non, mais ça, t'entendais le truc, André, c'est, tu vois, et une bagarre générale, quoi. Tu vois ce que je dis? Je dis, bon, t'es tranquille. Donc, je finis de manger tranquillement et tout. Donc, je descends et tout. Et donc, il y a mon petit frère Mala avec deux, trois potes, Somchenko, tout ça, Dimitri Payet. Et je dis, c'est quoi le problème? C'est quoi le délire? Et il y avait du monde, c'était un vrai jeu, quoi. Je lui dis, t'as vu, c'était le premier, celui qui le met, tu vois. Et je dis, ouais, c'est quoi le délire? Et tout, il me dit, ouais, non, il faut mettre la balle dans la fenêtre et tout. Je dis, c'est juste à cause de ça, vous êtes en train de faire du bruit et tout. Tu vois, et il me dit, ouais. Et donc, il me dit, tiens. Tu vois, moi au début, je dis, attends, qu'est-ce qu'il essaie de me faire? Ça, je le connais, mon frère. Parce qu'elle aime bien chambrer les gens, tu vois ce que je dis ou pas. Et lui, c'était un gars, sur les réseaux, il est super connu, tu vois ce que je dis ou pas. Et
mais il partait dans l'esprit que t'allais pas la mettre. Tu penses que quand il te donne le ballon, lui, dans sa tête,
c'est pas, je pense, j'en suis sûr. Non, mais je te dis, je le connais par cœur. Je le connais par cœur.
Il s'est dit, on va faire l'ancien.
On va le cure aujourd'hui. Je te jure que c'est vrai. Donc quand tu me donnes la balle, il me dit, vas-y, tente. Je dis, non, je dis, je te connais. Et là, je lui dis, je te connais. Il dit, tu sais, c'est pour m'afficher, tu vois ce que je dis pas. Il me dit, non, t'inquiète pas et tout. Et je lui dis, voilà, je te parle sérieusement, je vais tirer, mais ne me filme pas. Ne me mets pas sur tes réseaux, s'il te plaît. Je lui dis, il me dit, ok, d'accord. Et donc, je prends la balle et tout, je la pose, et je tire premier coup. Et le truc, il rentre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, par rapport à la célébration, en fait.
Ouais, elle est ouf, la célébration.
Bah, en fait, c'est une célébration qui est normale. C'est-à-dire que moi, si tu préfères. Toi, t'as voulu me cuisiner. Moi, je t'ai montré que moi, je suis un ancien. Tu vois ce que je dis ou pas? Et t'as vu, je le calcule même pas, en fait, Mala, tu vois. À partir du moment où je mets le truc.
Mais c'est ça, en fait.
Moi, je vais tout droit.
Il y a cette désinvolture.
Je remets tranquillement ma veste. Tu vois, je remets ma veste tranquille et je continue droit. Et tu regardes sur la vidéo, quand j'ai droit, tout le monde me félicite. Tu vois ce que je dis ou pas? Et donc, quand je suis arrivé au bout, et c'est là, je reviens vers Mala. Et je dis, Mala, j'espère que tu m'as filmé. Parce qu'en fait, je savais pas qu'il me filmait. Et je dis, j'espère que tu...
toute ta célébration.
Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il me filmait. Et j'ai dit, Mala, j'espère que tu m'as filmé. Et là, il me dit, non, je ne t'ai pas filmé. Je dis, je vais te tuer. Il me dit, non, je rigole, je t'ai filmé. Je dis, mais non, et tout, il me dit, si, voilà.
Et la vidéo, elle pète sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout le monde en parle. C'est partagé, repartagé. Après, il y a des vidéos qui arrivent derrière où carrément, tu donnes des consignes. Il y a même le gars qui l'a mis. Ça doit être ça.
Parce que tu sais, à partir du moment où j'ai mis le truc du premier coup, t'as vu, je suis devenu un grand maître, quoi, en fait. Tu vois ce que je dis? Ah non, mais attends, ça, blague à part. Non, mais non, attends, blague à part. Parce que là, tu crois que je rigole. Hein.
Pas du tout.
J'ai été formé. J'étais formé au temple de Shaolin. Tu vois, je savais que t'allais rigoler. Non, mais sérieux, j'ai été formé dans la 36e chambre du temple de Shaolin. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, à partir de ce moment-là, frère, il fallait j'initie ces petits-là, là, qu'ils essaient de faire comme moi, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, bon, tout le monde y passe, hein, tu connais moi. Hein.
Mais c'est. Est-ce que quand la vidéo elle pète, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Parce que, comme on le dit, il y a des joueurs quand même qui sont passés, il y a Mehdi Benatia qui est passé, on l'a dit, Néné, il y a des politiques qui sont passés, comme Carl Olive. Aujourd'hui, la lucarne, ça fait des tours du monde, il y a la lucarne qui est partie au Brésil, c'est un truc de ouf. Et ça part d'un gars qui mangeait du riz, qui a entendu du bruit, qui a mis un ballon dans une fenêtre. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès?
Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je te dis, dans la vie, hein, tu peux faire tout ce que tu veux. quand ça ne doit pas passer, ça ne doit pas passer. Tu sais, je vais te donner une petite anecdote de mon quartier, une fois que la vidéo elle a buzzé, entre guillemets. Mmh. J'ai des potes qui viennent me voir, donc des potes d'enfance. Ils me disent, attends, Guy, je comprends pas. Tu as tout essayé dans le quartier. Tu as essayé de faire du rap. Tu as été producteur. Tu as fait de la boxe. Tu as fait du foot. Tu as été président d'association. En fait, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui a marché. Et là, un truc où je ne m'attendais pas, c'est ça qui a pété.
C'est un truc de ouf.
C'est un truc de malade.
Et comment toi, tu vis cette notoriété qui arrive? Parce qu'il faut le dire, hein, même si vous êtes très modeste autour de tout ça, vous êtes des gens connus, qu'on reconnaît aujourd'hui. Comment toi, tu vis tout ça, les après-jours de cette lucarne?
Normalement.
Tranquille?
Sérieusement, ouais. Sérieusement. En fait, quand on est dedans, on voit pas l'ampleur. Voilà, sans te mentir, c'est qu'on voit pas l'ampleur, parce que nous, comme dit, ça change rien, en fait, t'as vu?
Au quotidien.
Voilà, ça changera au quotidien, comme j'ai dit aux gens, tu vas chez moi, tu vas toujours manger du tieb, il y aura toujours les cafards dans le frigo, c'est normal, quoi, t'as commencé du don ou pas, tu vois? Donc franchement, nous qui sommes dedans, on voit pas l'ampleur. À partir du moment où on a vu l'ampleur en vrai, parce que comme tu dis, t'as vu, on recevait les gens au quartier, mm-hmm. tu vois ce que je dis ou pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a une période où on est tous les jours au quartier. On est toujours au quartier parce que, donc par rapport aux réseaux sociaux, tu as des mecs qui se déplaçaient de loin, sans nous appeler, sans rien du tout, tu vois. Des mecs de Toulouse, du Nord, de tout ce que tu veux.
Ouais, même pas. Des célèbres influenceurs comme voilà. Thibaut Inchap,
exactement.
Qui en a pas mis une d'ailleurs.
Ça, je ne sais pas. Donc, comme je te dis, nous qui sommes de l'intérieur, en fait, on le voit pas. Et à partir du moment où on a réalisé le truc, bah, c'est quand tu vas à l'extérieur. Et là, ça y est, les gens te reconnaissent, en fait, quoi.
C'est là où tu... Et il y a même le maire d'Evry, je crois, qui... parce que le 24 rue Jules Vallès, du coup, il y a trop de bruit, ça dérange un peu le voisinage, ouais. Qui décide de délocaliser la lucarne. Ouais. Déjà, ça, c'est une victoire. C'est pas, il vous dit, faut arrêter. Il vous dit, ok, les mecs, j'ai compris l'ampleur que ça avait. J'ai compris l'importance que ça avait, même pour les petits d'ici. Donc, on va prendre, on va la recréer, mais ailleurs.
Ouais, c'est
un truc de ouf.
Ouais, c'est exactement ce qui était passé. Ce qui s'est passé exactement. Bah, après, on va dire, avec l'ampleur que ça a pris, c'était difficile d'arrêter, hein, je vais pas te mentir. Tu vois ce que je dis, pas, parce que même nous, on était conscients aussi, on va dire, du bruit qu'on faisait. Tu sais, même des fois, quand on recevait des gens, c'est sur une rue, hein, t'as vu, c'est sur une rue, il y a des voitures qui passent et tout, tu vois. Donc, souvent, on va pas se mentir, on gênait beaucoup à ce niveau-là. Bon, pas par rapport au bruit, parce que c'est vrai que même les habitants du bâtiment, ils peuvent dire, oui, le bruit, tout ça, non, mais hey, on vit dans une cité, tu vois ce que je dis, pas. Donc le bruit, on a l'habitude, frère. Tu vois ce que je dis, tu viens à Évry aux Pyramides, c'est un quartier de 10 000 habitants. Quand il fait beau, il y a de la musique à fond la caisse. T'as les crosses. C'est un quartier, quoi. Non, mais c'est un quartier, quoi. Tu vois ce que je dis, on n'est pas dans une zone pavillonnaire. Tu vois ce que je dis ou pas, tu vois. Et donc voilà. Donc après, avec la municipalité, bah, donc on a fait des réunions pour pouvoir trouver une solution. Voilà. Ça sera bénéfique de notre côté à nous, aussi pour le voisinage, hein, tu as vu. Et donc c'est là qu'on a décidé de recréer un mur. Bah, c'est quoi, c'est à 200 mètres. Hein, c'est à 200 mètres du vrai lieu, quoi, tu vois. C'est à 200 mètres du vrai lieu.
C'est une dinguerie.
Non, c'est un truc.
Ouais. Un ballon dans une fenêtre.
Non, mais c'est, ouais. Et je te dis, ouais, à partir du moment où voilà, j'ai vu l'ampleur du truc, c'est quand tu sors, les gens te reconnaissent. Surtout les gamins, quoi. Tu sais, ils en ont pensé. Des fois, c'est. Ouais, je suis gêné, moi, en fait.
De...
Bah, je suis gêné parce que tu sais, les gens, ils viennent. Est-ce que je peux prendre une photo? Est-ce que. Patati, patata. Sauf que moi, je suis gêné parce que je suis pas un footballeur professionnel. T'as vu, je suis pas. Je suis pas un artiste, tu comprends ce que je dis ou pas, tu vois, j'ai rien fait d'extraordinaire, tu vois, je dis ou pas. Mais dans la tête des gens, André, c'était ouais, c'est un truc de malade, tu vois, les gamins, pas de série.
Et en parlant de gamins, comment tes enfants à toi, ils le vivent eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont là, papa c'est devenu une star?
Non, même pas. Non, franchement, non. Non, franchement, je crois qu'ils sont un peu... Tu sais, nous, on est une famille, on va dire, avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de timidité, entre guillemets, aussi.
Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est réservé.
Voilà, on n'aime pas trop quand il y a la lumière sur nous, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même mes enfants, si on leur dit pas c'est ton père, c'est pas lui qui va le dire.
Dire ouais, c'est
diront
mon père,
pas. À part mon seul. Bon, mon fils, lui, par contre, lui s'est cramé parce qu'il était sur toutes mes vidéos. Mais dire les plus grands, non, si on leur dit pas... Non, elles s'en vendent pas, quoi.
On parlait d'enfants, tu parlais tout à l'heure aussi également que tu as été président d'association. Moi, je t'ai connu grâce à ce que tu fais au Mali à travers Snap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les actions que tu mènes au Mali?
Ouais, il faut savoir qu'en fait, nous, on a toujours baigné dans ça, en vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire, par rapport à nos parents. C'est-à-dire que depuis tout jeune, on a toujours l'habitude de voir nos parents remplir des balgons, faire des cartons. Est-ce que vous avez des anciennes chaussures? Est-ce que vous avez ici? Patati patata, on voyait au bled. Et je t'avoue, à cette époque-là, on ne comprenait pas. On dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? C'est pour dire, des fois, tu poses une veste, tu ne trouves pas la veste.
Ouais, ça m'arrive. Non, mais c'est une dingue.
Non, mais tu comprends ce qu'ils ont.
Des maillots de foot qui disparaissent. Non,
mais tu comprends. Après, tu sais, quand vous êtes beaucoup, parce que nous, on est beaucoup, on est fratrie de 13 enfants, mm-hmm. Tu viens, tu poses un truc dans le salon, il disparaît, tu dis peut-être c'est ton frère qui l'a pris ou c'est ta soeur, même un cousin, tu vois ce que je dis ou pas. Donc ton truc, tu le cherches, tu le trouves pas. T'arrives en vacances, tu vois ton truc sur un mec. Non, mais... je pense que tu connais,
ça, ouais, c'est un truc de...
tu vois ton truc sur un mec, tu sais, des fois tu connais même pas en fait, tu vois ce que je dis ou pas, tu vois. Et donc je te disais, ouais, donc nous on a toujours baigné dans ça, et donc ça je l'ai toujours fait en fait, tu vois ce que je dis ou pas, je l'ai toujours
avant
fait.
Avant même que la notoriété.
Avant même que la notoriété. Avec mes frères et tout, on a toujours l'habitude de récolter des jeux de maillots, des ballons de foot, faire des balgons, voyez, au village, récupérer des manuels scolaires, ça on l'a toujours fait, tu vois ce que je dis ou pas. Et donc maintenant, on va dire, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, donc à mon identité, je joue un peu de ça, on va pas se mentir, hein, tu vois ce que je veux dire, je me dis quand même,
ça
voilà.
Ça doit servir à ça aussi.
Exactement, je suis connu, donc pourquoi pas faire quelque chose... qui pourra apporter plus à ce que je faisais déjà, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et donc effectivement, donc j'ai commencé à faire de l'humanitaire. Donc les premières choses que j'ai fait, on avait récolté des fonds, on a récupéré des vêtements et tout. Donc je suis parti au Mali à Bamako dans un orphelinat. Mmh. Donc avec l'argent que j'avais récolté, donc on a acheté première nécessité.
Voilà. Un kit de première nécessité.
Était, donc des couches, du lait, et qu'on est parti distribuer dans l'orphelinat. Là, je te parle avec beaucoup d'émotion parce que tu as vu les images, ils reviennent en
ils
fait.
Ils reviennent parce que, de ce que.
Ouais, ils reviennent parce que c'était. C'était un truc de malade en fait. Ouais. C'est des choses, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas l'expliquer. Et donc après, ça m'a donné envie de continuer et tout. Là, je reviens du Mali. Là, je suis parti faire 10 jours. Mmh. C'était la deuxième édition des fournitures scolaires. On a réussi à distribuer 3500 kits scolaires.
3500
kits scolaires. Et là, on va renvoyer encore 500 kits scolaires. Donc, ça va faire à peu près 4000 kits scolaires sur 8 villages.
C'est incroyable. Et est-ce que, on sait, t'es né au Mali. Quand tu retournes justement pour ces distributions, comment tu vis tout ça?
Sans parler déjà des distributions, déjà le fait d'être...
De retourner au...
Déjà, la première fois que j'ai été au Mali, donc c'était en 98, ça m'a fait un espèce de blocage, on va dire. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé avec des potes d'enfance. Donc des gens que j'ai côtoyés, donc de 77 à 84, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et les conditions de vie dans lesquelles ils étaient, ça m'a tué parce que je me dis, si j'aurais pas eu la chance de venir en France, je serais à leur place en vrai, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et donc pour revenir à...
Et c'est ça aussi qui motive du coup derrière tes actions que tu fais aujourd'hui, je suppose qu'il y a ce truc de... Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de renvoyer l'ascenseur?
Il y a déjà ça, mais je me dis aussi que, tu sais, à un moment, faut arrêter de compter sur les gens. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis malien. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire les choses pour le Mali. Si moi, je commence pas à le faire, qui va le faire?
Ouais.
Qui va le faire? On dit toujours, commencez, on va vous suivre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, aujourd'hui, et t'as vu, on va pas se mentir, t'as vu, je suis une fierté aussi pour la population malienne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je les rencontre les mecs dans la rue. Tu vois, ils me parlent même plus de lucarne, en fait. Même pas de ce que je fais au Mali.
Ouais, c'est la raison principale pour laquelle on t'a invité ici aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment ce que tu fais. C'est pour ça que je voulais qu'on insiste et qu'on passe vraiment du temps là-dessus. C'est sur ce que tu fais là-bas, c'est ouf. Parce que 4000 kits scolaires, comme ça, quand on l'entend, de nous ici en Occident, on peut se dire, ouais, c'est pas beaucoup 4000 kits scolaires. Mais 4000 kits scolaires là-bas au Mali, c'est une aubaine, c'est un truc tombé du ciel.
C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Tu sais, en fait, c'est... Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on a beaucoup, beaucoup de compatriotes. Mmh. Quand je dis compatriotes, c'est-à-dire des immigrants, entre guillemets, qui ne connaissent pas chez eux. Il y en a beaucoup même qui ne sont jamais partis. C'est ce que je dis ou pas. Et c'est ce que je disais lors du discours de la finale qu'on a fait au mois de septembre. Quand je suis parti faire, donc l'année dernière, les kits scolaires, j'ai vu des regards. Je te jure que c'est vrai. Pour un cahier, pour un stylo, pour un crayon, J'ai vu des sourires. Des gamins, je crois que j'oublierai jamais de ma vie. J'oublierai jamais de ma vie. Et ça, ces trucs-là, ces moments, il faut les vivre dans sa vie, en fait. Parce que malheureusement, t'as vu, on est en France, on est un peu aveuglés, nous. On va pas se mentir. On vit dans un certain confort. Tu comprends ce que je dis ou pas? Tu regardes les gamins aujourd'hui, ton fils, les 10 euros, tu lui donnes en une minute, c'est fini. Il va au McDo, 10 euros, ça y est, c'est fouf. Tu vois ce que je dis ou pas? Quand tu regardes un kit scolaire en équivalent, c'est à peine 1 euro. Et dans ce kit, c'est cahier, crayon, stylo, gomme. Et des fois, on rajoute aussi une ardoise. Tu vois ce que je dis
ou pas? Pour 1 euro seulement. C'est un truc de ouf.
1 euro seulement. Et quand je dis, les sourires. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Que même ces sourires-là, je les vois même pas sur mes enfants ici. Et pourtant, on fait tout pour eux.
Tu trouves qu'on est déconnecté de la réalité en France, qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a?
Complètement. Complètement. Mais complètement. Pour te dire, écoute bien, je vais t'expliquer une chose. Comme je te dis, ce qui m'a permis... ce qui a fait un déclic dans ma vie, en vrai aussi, hein, bah c'est ce premier voyage au Mali. C'est ce premier voyage.
C'est ce qui a changé ta perception des choses.
Complètement, complètement, complètement. Je te jure que c'est vrai. Parce que j'étais en France, j'avais tout. J'arrive au Mali. Bah, je vois en fait que le monde ne s'arrête pas à nous, en fait. Tu sais ce que je veux dire? Le monde ne s'arrête pas à nous. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup, beaucoup de parents qui sont issus de l'immigration à ramener leurs enfants dans ces pays-là. Parce que ça peut leur faire des déclics. Juste un petit exemple par rapport à ça. Je suis parti 2-3 fois avec ma famille, donc ma femme et mes enfants. Et j'ai une de mes gamines, c'est beaucoup chichi. Tu vois, c'est les Barbies, c'est les. Tu vois ce que je veux dire? Les princesses, tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et beaucoup de chichi de temps en temps au niveau de la nourriture, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on va au bled et tout. Et donc ils voient la réalité de la vie. Donc des gamins comme eux, ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de vêtements. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc un jour, donc on revient, et donc ma fille, elle est en train de manger et tout, et elle veut pas finir son assiette, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a son petit frère qui lui dit, pourquoi tu finis pas ton assiette? Non, j'aime pas trop ça. Et mon fils, hein, à l'époque, il avait peut-être 6-7 ans, il lui dit, écoute, est-ce que tu te rappelles pas, il y a 2-3 mois, là, on était au Mali, là, il y avait des gens comme nous, ils avaient même pas de quoi manger?
Oh, la claque.
Il lui a mis une claque.
Ouais.
Elle est restée pendant au moins, vas-y, 1-2 minutes bloquée. Hein, en plus, c'est son petit frère qui lui dit ça, tu vois ce que je dis ou pas?
C'est encore plus.
C'est son petit frère qui lui dit ça, elle est restée pendant 1-2 minutes bloquée. Elle a repris son assiette. Elle a tout fini l'assiette. Et depuis ce jour-là, je te dis franchement, même mes enfants, ça les a fait évoluer. Ça les a fait évoluer en tout cas malade. C'est-à-dire que maintenant, ils ne chipotent plus.
Et comment justement on peut t'aider, toi, dans ces actions-là? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour continuer à faire en sorte que toi, tu fasses ce que tu fais là-bas?
Bah moi, t'as vu, sans te mentir, t'as vu, les gens, souvent, ils me remercient pour ce que je fais, mais c'est moi qui les remercie, ces gens-là, en vrai, tu vois ce que je dis? Parce que sans ces gens-là, moi, je peux pas faire. Je peux pas, en vrai. Parce que moi, mon truc, il est très, très simple. C'est que moi, je fais des cagnottes par mes réseaux sociaux. J'envoie de temps en temps à des gens qui partagent pour moi. Et c'est les gens qui m'aident, on va dire, financièrement. Parce que c'est vrai, il y en a qui peuvent dire, ouais, mais pourquoi ils prennent pas les trucs qui les emmènent là-bas? Ça reviendrait plus cher. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Même si demain, toi, tu me donnes, je te donne un exemple, 5000 kits scolaires, il faut les envoyer. Il faut les envoyer. Tout ça, c'est un coût. T'es d'accord avec moi?
C'est un travail.
Ah oui, c'est un travail, c'est un coût. C'est pas gratuit, t'es d'accord avec moi? Donc voilà. Donc, c'est pour ça que je profite de ton émission pour franchement remercier toutes ces personnes-là. Parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire tout ça. Moi, je suis juste un intermédiaire, en fait, entre eux et ce qui se passe là-bas. Et je les remercie. Donc, par mes réseaux, de temps en temps, je fais des cagnottes. Voilà. Donc, réseau Snapchat, surtout Snapchat, on va dire. Je fais des cagnottes et les gens, ils contribuent à leur échelle.
Donc, si on veut t'aider, on passe par Snapchat. Snapchat qu'on mettra en lien de cette émission. Mais est-ce que, je voulais te demander aussi, est-ce que les gens ne te rendent pas finalement ce que tu leur donnes? Parce que tu es aussi quelqu'un de très solaire, très dans la vanne, très joyeux. Est-ce que finalement, c'est pas juste un bon retour des choses?
Bah, je sais pas, parce que moi, en fait, nous, on est naturel comme ça. Je veux dire, nous, on est une famille, tu viens chez nous, frère, tu vas rigoler. Tu vois, t'as pas besoin d'aller voir Jamel Debbouze, quoi. Je dis, tu vois, non, mais tu comprends ce que je dis ou pas? En fait, nous, on est une famille comme ça, tu veux dire, et on a toujours été comme ça à Évry, au quartier des Pyramides. Tu vois, au quartier des Pyramides, tu demandes à la famille Sissoko du bâtiment 9, tout le monde te parle de nous. Il n'y a pas un gars qui n'a pas mangé chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est naturel pour moi. C'est-à-dire, quand les gens, même, ils sont là, oui, non, mais t'es, ce que tu mérites, c'est normal, c'est toi ci, c'est toi ça, non. Parce qu'en fait, moi, je vois rien de spécial là-dedans, en fait. Je suis juste comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, quoi. Non, c'est moi qui les remercie, ces gens-là. Tu vois, ils ont même pas besoin de me retourner l'ascenseur, en vrai, ouais, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un plaisir qu'aujourd'hui, les gens, ils viennent dans notre ville à Évreux, aux Pyramides, ils viennent voir la Lucarne, et même nous, tu as vu, ça nous permet aussi de voir d'autres personnes.
Ouais, ça vous fait. Et même vous, ça vous fait voyager, finalement.
Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, hier, on était à Calais. On est parti à Calais, on est parti remettre.
Un chèque de 20 000 euros.
Un chèque de 20 000 euros au grand gagnant de la Lucarne donc de cette année, Toms, clin d'œil à toi déjà. Et c'est ce que je disais hier dans mon discours et tout, sans la Lucarne, on ne se serait jamais connu. On ne se serait jamais connu. Et c'est important d'aller vers les gens. C'est très très important. Parce que regarde, je te donne un exemple, tu parles de Calais. Aujourd'hui, les gens, ils ont une image de Calais, c'est que par rapport à ce qui se passe par rapport aux migrants. C'est tout. Ils ne connaissent que Calais par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous, on était à Calais, frère, nous ont reçus mieux que même les gens de chez nous. Mieux que les gens de chez nous. C'est pour ça, les gars, faut pas hésiter. Il faut bouger, il faut aller vers les gens. Il faut connaître les gens.
Et j'ai l'impression que ta vie, quand tu m'écoutes, tout au long de cette émission, que ta vie, c'est que des rencontres. Et c'est toutes ces rencontres qui t'ont façonné. C'est un truc de ouf. C'est le village, c'est Caï, c'est Bamako, c'est Paris, c'est Évry, c'est le BEP. C'est même cette dame, finalement, cette psy qui refuse de te prendre. C'est que des rencontres. Ouais. Et c'est ces rencontres qui font ce que tu es. J'ai l'impression que tu accordes beaucoup d'importance à ça, au fait de se rencontrer les gens. Est-ce qu'on n'a pas aussi un peu perdu ça aujourd'hui dans notre société, où on est chacun un peu parqué dans nos coins, comme tu le disais, au bled, finalement, c'est des grandes maisons où tout le monde se rencontre. Le voisin, c'est limite la famille, c'est limite s'il n'est pas chez toi de par comment sont faites les habitations. Il nous manque pas ça dans notre société actuelle en France?
Tu sais, je vais te dire une chose. Manquer même, c'est trop petit. C'est trop petit. On est loin de tout ça, sincèrement. On est loin de la bonne époque où on avait cette solidarité dans nos quartiers. On avait cette fraternité dans notre quartier. Tu vois ce que je dis ou pas? L'entraide. Aujourd'hui, frère, tu peux passer devant 10 gars, t'as besoin d'aide, ils ne savent même pas te calculer. Nous, notre époque, nous, ça n'existait pas. On était dans le quartier, tu voyais des darons, des gros sacs, tu prends. Mais si tu dois faire 1 km, tu marchais jusqu'à là-bas. Avant, tu voyais le petit frère de ton ami en train de faire des conneries, tu le gifles. Le petit frère, le grand frère, il vient, il le gifle avec. Tu comprends ce que je dis ou pas? En fait, on est dans un monde individualiste aujourd'hui, où chacun veut que son chacun réussisse. Mais ça, c'est pas bon. Demain, si tu veux que ton enfant réussisse, il faut que tu veuilles que tous les enfants des autres aussi réussissent. Et malheureusement, aujourd'hui, comme je te dis, hein, on est loin de cette bonne époque, je te jure que c'est vrai. On est loin. C'est pour ça que je te dis manquer, hein. C'est encore petit comme mot.
Mais est-ce que c'est trop tard? Ou on peut encore... on peut changer le cours des choses?
Bah, oui et non, parce qu'en fait, le système, il fait aussi que les gens sont de plus en plus individualistes. On va pas se mentir, tu vois ce que je dis ou pas. Regarde là où on est, dans notre structure là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu une structure comme ça, je te jure que c'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai dit...
Une MJC,
tu comprends? J'ai dit, waouh, ouais, ça me rappelle mon époque à moi. Quand je traînais dans ma maison de quartier, aux Pyramides, c'était un lieu où on était comme chez nous. Tu commences le dos ou pas? Tu sors de l'école, tu fais tes devoirs. Bon, devoirs, c'est un grand mot. Tu vois ce que je dis ou pas? Mais c'était une deuxième famille en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'était une deuxième famille. Surtout, tu as vu, nous, les anciennes générations à l'époque qui ont connu les lits superposés. Qu'on connaît, tu vas à Carrefour, tu prends le chariot. Dans le chariot, il y a que 3 articles. tu comprends ce que je dis ou pas? Il y a que 3 articles, hein, mais le chariot le remplit. Du lait, du pain et des steaks congelés. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu sais, à un moment, il faut revenir à nos valeurs. Surtout qu'aujourd'hui, tu as vu, nos parents sont en train de partir petit à petit. Et c'est eux qui avaient ces valeurs-là en préféré. Et quand tu regardes aujourd'hui que les gens sont de plus en plus, on va dire, individualistes, C'est entre autres un peu à cause de tout ça, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je te parle de mes parents, bon, qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais je veux dire, ouais, tu vois, mais je veux dire, mes premiers enfants, tous les week-ends, ils étaient chez mes parents. Tu connais les grands-mères. Ça éduque aussi les enfants. Mmh. Ça leur parle la langue. Ils mangent du tiep, ils mangent du mafé. Tu comprends ce que je dis ou pas? Aujourd'hui, avec ces générations-là de parents qui sont en train de partir, ça va être encore pire. Ça va être encore pire.
Mais justement, il est là le rôle de la transmission, non? Il y a tes parents, il y a toi, ensuite il y a toi qui va transmettre à tes enfants. Tout est une question de transmission finalement.
Oui, mais c'est que malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce de cassure en fait dans les transmissions aujourd'hui. Tu vois ce que je dis ou pas? Et on le voit bien, tu sais, même dans nos quartiers, on va pas se mentir, tu vois plus de différence entre les petits frères et les grands frères. Tu vois plus.
Ouais, c'est vrai. Les tu vois plus. Sont devenus grands.
Mais tu vois plus. Tu regardes. Je dis, même moi dans mon quartier, des fois, je vois des gamins, ils sont en train de faire des motocross, ils font du bruit, ils dérangent les gens. Tu comprends ce que je dis ou pas? À un moment, tu as envie d'aller leur parler. Mais tu peux pas aller leur parler en fait. Parce que le grand frère, il est à côté, lui, il les voit faire. Qu'est-ce que toi, tu vas aller dire au petit frère? Tu dis, arrête de faire la moto, mais t'es bien chier, regarde, mon grand frère, il est à côté de toi, il me dit rien, c'est toi qui vas me parler. Il est là le dilemme dans ça.
C'est compliqué.
C'est très très compliqué, je te jure que c'est vrai, c'est très très compliqué.
Et on n'a pas de... Toi, t'as pas de... on n'a pas de recette miracle, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire tous ensemble pour que ça change. Peut-être que ça éviterait aussi certaines situations dans lesquelles on est aujourd'hui, comme brièvement, il y a la mort du petit Naël, on l'a vu, le policier qui a été libéré cette semaine, etc. Est-ce que aussi le fait qu'il y ait ce manque entre les grands frères et les petits frères, est-ce que ça ne crée pas aussi... un truc où les petits maintenant ils sont dans autre chose et ça les ramène à des choses qui finalement sont qui deviennent même dangereuses pour eux.
Bien sûr. Bah tu sais, moi je vais aller encore plus loin dans le raisonnement. Encore le cas Naël, c'est un cas qui est un peu différent. Tu vois ce que je dis ou pas? Parce que c'est ce qu'on appelle une bavure policière. Tu vois ce que je dis ou pas? Moi je te parle de tous nos frères qui s'entretuent. Qui s'entretuent. Là c'est pire encore en fait.
Oui. Vous avez grandi, parfois grandi ensemble.
Tu comprends ce que je veux
dire? Dans la même assiette.
Exactement. C'est pour ça que je te dis, tu me parles de message. C'est à travers nous qu'on peut faire avancer les choses. T'as l'air pas d'égoïsme, même dans nos quartiers. On est égoïste dans nos propres quartiers. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Moi, je te parle de ma génération à moi. Nous, c'était les trois villes limitrophes, Évry, Grigny, Corbeil. On bougeait partout, partout, on était chez nous. Ça, je veux dire. Et on se connaissait aussi à travers aussi les MJC, les maisons de quartier, qui travaillaient beaucoup ensemble. On allait en vacances ensemble. On faisait des randonnées ensemble. On faisait des tournois de foot ensemble. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. C'est pour ça que le système un peu lié un peu pour quelque chose.
Il a changé.
Est-ce que c'est pas fait exprès? Chacun a resté chez lui. Des fois, tu sais, juste tu traverses une rue, tu es dans un autre quartier. Juste une rue. À un moment, c'est compliqué. Il faut que ça parte d'en haut pour moi. Et comme je te dis, quand je vois un truc comme chez vous, là, une MJC comme ça, je me dis franchement, les gamins aujourd'hui, dans vos quartiers, en tout, dans ce quartier-là ici, en tout cas, hein, ils ont quelque chose chez eux que peut-être ils ne s'imaginent pas, en fait.
Ils ne prennent pas la valeur de ce
exactement.
Qu'ils ont.
Mais parce qu'ils l'ont, en fait. Comment suis-je donc ou pas? Tout à l'heure, je disais à mon frère Daniel, là, donc qui est le directeur ici.
Directeur du centre.
Tu commences à lui dire, quand je suis arrivé ici, je dis, Daniel, mais c'est un truc de malade. Je dis, t'imagines, mon quartier des Pyramides, 10 000 habitants, on n'a même pas ça, nous. 10 000 habitants, t'imagines?
Peut-être un jour créer ça avec la Lucarne. Pourquoi dans l'évolution.
Pourquoi pas, mais sincèrement, s'il y a un truc à créer avec la Lucarne, moi, personnellement, hein, ce serait dans un pays ou dans une zone où il y a du besoin.
Encore plus
exactement.
Qu'en IDF.
Parce que, comme je te dis, aujourd'hui, on vit dans un monde où, Dieu merci, tout le monde se maintient, entre guillemets. Tu vois ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que, tu sais, ici même, je peux faire de l'humanitaire ici, en vrai, vrai. Mais ça va pas être le même impact.
Que, ouais, qu'ailleurs.
Ça va pas être le même impact. Pourtant, on a déjà essayé avec mon frère Malasson de faire des maraudes. Tu sais, on a chargé des camions. Nous, on a chargé des camions. À l'époque, il y avait beaucoup d'immigrés sur Paris. On est parti, on a fait de la bouffe, on est parti leur ramener. J'ai vu des migrants, moi, choisir les habits. À partir du moment où je choisis quelque chose, frère, t'es pas dans la merde. Je suis désolé. Moi, demain, je ramène un conteneur de vêtements dans mon village.
Il n'y a personne qui fait le...
Si les mecs ils choisissent par rapport à leur taille, ils vont pas dire, ah non, moi j'aime pas cette couleur-là, j'aime pas si. Moi, si tu fais ça avec moi, c'est franchement, t'es pas dans le besoin. C'est de la vérité. Donc voilà. Mais franchement, voilà, moi, mon but, c'est de continuer à faire l'humanitaire. Là, aujourd'hui, je suis au Mali, j'aimerais bien aller aussi dans les autres pays. Mais comme je dis, c'est très difficile d'aller dans des pays où tu connais pas les gens. T'imagines, moi-même, je suis obligé d'aller sur place pour faire les choses.
Ah, c'est sûr.
Et pourtant, j'ai de la famille là-bas. Mais tu sais, tu connais l'Africain.
Le monde a...
tu vas te donner 500, ils vont te donner 200, l'autre, tu vas dire, c'est tombé dans le fleuve, le crocodile l'est passé, il l'a mangé. Tu connais. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est vraiment voilà, essayer d'aller dans beaucoup de pays où ils sentent le besoin. Pas que l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Partout, voilà, partout on peut aider les gens.
Okay. On touche à la fin de cette émission, on n'est pas très loin de la fin. J'ai un petit jeu pour toi. Alors le jeu il est simple, je vais te faire des débuts de phrases et tu vas devoir les finir.
Oh.
Par exemple, je sais pas, ma couleur préférée c'est le.
Ah
tu
ouais.
Devras dire.
D'accord. Okay.
C'est bon pour toi ?
Nickel.
La chose que je regrette le plus dans mon passé c'est.
Les guerres de bande.
Pour moi, mes enfants sont.
J'ai pas entendu la question, tu peux la répéter.
Pour moi, mes enfants sont.
Sont mes enfants.
La notoriété, c'est agréable, mais.
Difficile à vivre de temps en temps.
J'aimerais dire à Malasson que.
Que God bless you, my brother.
Sans la lucarne, aujourd'hui, je serais.
Je serais comme tous les jours, en fait.
La meilleure technique pour mettre le ballon dans la fenêtre, c'est...
Être formé dans la 36e chambre du temple de Shaolin, par moi-même, Guy Sensei.
Bon, on y passera alors.
Avec plaisir.
Si je devais décrire le Mali en trois mots, je dirais...
Solidarité. Fraternité. On va pas se mentir, hein, pauvreté aussi.
Pour moi, la libération de Kidal est une...
Une fierté.
Lors de la prochaine CAN, le Mali sera...
Champion d'Afrique.
C'est sûr, ça ?
Bah, je l'espère.
Oh bah.
Avec la libération de Kidal aujourd'hui, si demain on est champion d'Afrique, là, ça y est.
Oh, c'est notre année.
Là, ça y est, on va prendre le drapeau du Mali, on va la mettre sur la lune.
Bah, merci, Guy, en tout cas, d'avoir été mon invité.
Merci à toi.
Juste, comme on le disait, cette émission elle a été faite pour les jeunes, donc je te laisse leur adresser un dernier message juste avant qu'on clôture l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces jeunes aujourd'hui ? On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. Si on devait résumer, qu'est-ce que toi, tu aimerais leur faire passer comme message à ces jeunes-là ?
Bah moi, le message que j'ai envie de faire passer à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui des jeunes, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont l'avenir de demain, ces gamins-là. Ils sont l'avenir de demain, ces gamins-là. Qu'aujourd'hui, à un moment, il faut bouger. Il faut, entre guillemets, prendre son destin en main. Il ne faut pas rester s'asseoir à attendre que ça arrive. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on a les capacités de faire des choses nous-mêmes. On peut créer des associations. On peut même aller encore plus loin, aller même dans des partis politiques. Aujourd'hui, on a des frères qui ont les capacités de devenir maires. Il y en a beaucoup qui sont maires adjoints aujourd'hui. Mais on a les capacités de devenir maires. En tout cas, toute cette jeunesse-là, hein, je vous dis, hein, ne lâchez jamais vos rêves. Ne lâchez jamais vos rêves. Et faites très très attention aux gens qui sont là en train de vous démotiver. Ne lâchez jamais vos rêves. Et surtout, ayez confiance en vous. Et dernier message, s'il vous plaît, les gars. Respectons-nous. Respectons-nous dans nos quartiers, respectons-nous dans nos villes. Ça, c'est très, 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 très important, les gars. Et dernière chose, arrêtons, s'il vous plaît, toutes ces guerres de bandes inutiles qui servent à rien du tout. Voilà, c'était Guy Sensei, le grand maître de la 36e chambre de la Lucarne d'Evry. Force à vous, les gars. En tout cas, vous passez quand vous voulez à la Lucarne, les gars. Je serai toujours, toujours présent pour vous. Et on lâche pas le combat, les gars.
Bah, on passera à la Lucarne. Merci beaucoup, Guy, d'avoir été mon invité.
Tu m'as dit, tu vas passer ?
Je vais passer. Mais vraiment, mais moi, j'ai pas envie de. Tu vois, moi, j'aime pas que jouer au foot. Ouais. Je veux manger le riz aussi. Ça veut dire, si tu me fais un pactage riz plus Lucarne, moi, je passe direct.
D'accord, c'est ce qu'on fait ?
Vas-y.
Moi, je fais la Lucarne, toi, tu ramènes le riz.
On peut faire comme ça, c'est carré.
En tout cas, merci beaucoup.
Vas-y, c'est signé.
Allez, force à toi.
Merci à toi, merci aux auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Cette émission, elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Merci à vous et passez une belle soirée ou journée. Tout dépend du moment auquel vous nous écoutez.
La morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien. La morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien. La morale, tu vas la faire à d'autres. Paris FM.